Bonsoir, des thèmes pour le débat de ce soir. Après ces avancées dans l'attaque contre l'EDF à Beni, l'armée dit consolider ses positions dans les zones récupérées des mains de ses rebelles. Le vice-premier ministre en charge de la justice a réuni cette semaine à Kinshasa les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales des quatre provinces en crise. Ce sont les principaux thèmes de ce soir. Et trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Serge Kabongo. Il est journaliste à CCTV, télévision émettant de Kinshasa. Bonsoir Serge Kabongo.
Bonsoir Guy Mathieu. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Ambroise Mamba, directeur des informations à Congo Web Télévision émettant aussi de Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy Mathieu.
Et Brunel Kachi, journaliste à Yalisano Télévision et rédacteur du magazine indépendant Agora à Kolosi Lualaba. Bonsoir Brunel Kachi.
Bonsoir chers confrères Guy Mathieu et bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission. Comment la presse a traité l'actualité de la semaine? On le saura en suivant cette revue de presse que nous propose Kelly Nkouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la reprise de Madina par les FRDC. Le potentiel online.net informe que les jours des rebelles ougandais ADF semblent de plus en plus comptés au bout de doigts dans les forêts de Beni. Après avoir perdu Mayangose, Totota, Kidiwela et Mwalika, les djihadistes ont enfin été délogés de la plus importante de leurs bases qui est passée sous le contrôle des forces armées congolaises. La nouvelle a été relayée en début de soirée du jeudi 9 janvier 2020 à la suite d'intenses combats menée depuis plus de deux mois maintenant par les soldats congolais. C'est autour de 15h que les FRDC, sous le commandement du général Chiko Tshitambwe, ont courageusement récupéré ce sanctuaire situé sur l'axe nord dans la zone des combats, explique le journal. Pour cette sur 7.cd, c'est après des violents combats entre l'armée contre les rebelles pendant toute une journée. Les miliciens n'ont pas supporté la puissance des feux des éléments FRDC, d'après des sources militaires à Beni contactées par 7.cd. Après le lieutenant-colonel Joseph T2 au sein des opérations Sokola 1, cité par MediaCongo.net, le camp de Madina est passé sous contrôle de l'armée loyaliste jeudi 9 janvier 2020 après de violents combats avec les assaillants. Madina était le plus grand bastion des rebelles ADF, ce qu'on leur servait des bases arrière et d'un lieu de retranchement. C'est un grand pas pour nous, c'est votre victoire, vous population, je vous appelle à nous accompagner, a-t-il dit. Actualité.cd renseigne pour sa part que les forces armées de RDC ont dressé le 11 janvier dernier le bilan des combats qui ont conduit à la reconquête de Madina, l'un des principaux bastions des combattants ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays. D'après l'armée, 40 combattants ont été tués et des armes récupérées. Sous un autre chapitre, poursuite des travaux de la commission de la crise dans les institutions provinciales, forumdesas.org renseigne que la réunion avec les gouverneurs des provinces a problème. Le président et vice-président de leur assemblée provinciale respective, initialement prévue pour lundi 13 janvier, ne se tiendra qu'après l'étape des échanges entre les membres du gouvernement. Elle constituera le dernier virage des travaux de cette commission interministérielle qui a vocation à restaurer la paix et les bons climats sociaux dans les provinces. Pour sa part, la prospérité online.net informe que la commission interministérielle ad hoc instituée par le premier ministre dans les desseins de restaurer l'harmonie dans le fonctionnement des quatre provinces dont les gouverneurs ont été destitués par leur assemblée provinciale respective et à pied d'œuvre depuis jeudi dernier. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux Tundaya Kassende, elle réunit les chefs des exécutifs déchus et les membres des organes délibérants de l'Ituri, du Congo central, du Sankuru et du Haut-Lomami. Les gouverneurs et les présidents des quatre provinces en crise ont été appelés à travailler pour l'intérêt de la République, peut-on lire sur www.radioocapi.net. qui cite le gouverneur Jean Bamanissa. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende, a fait cet appel mardi 14 janvier 2020 à Kinshasa lors de la réunion qu'il a organisée avec les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales des provinces en crise.
Merci à vous, Kelly Nkouté. Serge Kabongo, journaliste à CCTV Télévision émettant de Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette commémoration des anniversaires de l'assassinat de nos deux héros nationaux. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces deux anniversaires?
Ah bien, merci. Et avant d'abord, peut-être de répondre à votre question, j'aimerais rappeler que je viens du Haut-Katanga, de Lubumbashi, là où sévit l'insécurité et les gens meurent. Peut-être nous, à Kinshasa, nous, les médias de Kinshasa, on n'a pas vraiment le temps d'en parler. C'est que je vécu à Lubumbashi. ça dépasse tout attendement. Et je pense que les dernières mises en place opérées au niveau de chefs des différentes zones de défense de la police par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, ces mises en place devraient intervenir, d'autant plus qu'il y a certains membres de la police dans différentes provinces étaient arriver à ce que moi j'appelle une sorte du laxisme un peu et une sorte de complicité avec certains bandits, avec certains criminels. Et pour les cas d'espèce, les cas du Haut-Katanga, il faudrait que celui qui vient d'arriver, le général Karawa, en remplacement du général Kyungu, puisse bien travailler, parce que j'ai parlé avec les populations de Lubumbashi. Elles se plaignent de l'insécurité, et cette insécurité ne touche pas que des paisibles citoyens. Maintenant, c'est des bandes armées, c'est des bandes organisées et qui font des visites impromptues, des visites dans des résidences, que ce soit des officiels et même dans des résidences de certains éléments de la police. Et je pense qu'il faut qu'on ouvre un œil, les bons, parce que déjà, avec cette histoire de Bakata Katanga, on a semblé dire que cette question des non-originaires devrait plutôt être prônée en lieu et place de mettre des chefs de police originaires de différents province. Ça, c'était juste pour épingler ces cas, notamment, on va peut-être parler de Colosi et tant d'autres. Ouais. Mais j'aimerais aussi revenir sur votre question pour parler de M. Laurent Désiré Kabila. Ça fait 19 ans, jour pour jour, depuis qu'il nous a quittés. Je vis un peu l'effervescence au niveau du Palais de Marbre, ici à Ngalima. Mais par contre, au niveau du Palais de la Nation, il y a eu un petit retard, un grand décalage. Les membres des familles étaient là, mais l'accès n'était pas facile, non pas simplement pour les visiteurs, mais aussi pour des journalistes. On n'a pas voulu qu'on accorde des interviews, moi encore les photographes pour faire leur travail. On retient de musée beaucoup de choses. Mais moi, aujourd'hui d'ailleurs, j'étais en train de dire ça à mon confrère qui est à ma gauche, Ambroise Gamba. J'ai dit aujourd'hui, musée est mort, 19 ans après, et ceux qui l'ont tué, et j'ai réalisé une interview off the record avec le général Eddy Kappen il y a 2 ans au niveau de Makala. Je suis allé lui rendre visite. Tout ce qu'il m'a dit sur musée, je me dis, ces gens-là ont tué musée. Joseph Kabila connaît bien tous ces gens. Mais est-ce que ces gens-là, ils tuent son père pour remplacer par son fils, et lui-même, comme fils, il ne sait pas venger son père? Donc, c'est des petites questions, mais qui demandent beaucoup d'interrogations. Comment les gens qui ont tué ton père, et ils te laissent là, tu deviens président, tu remplaces ton père, mais tu ne venges pas ton père? Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croupissent en prison. J'ai mon père biologique qui est là, mais c'est Georges Leta, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, plus de 15 ans à prison, sans procès, il est détenu, privé de sa liberté. Je pense que 19 ans après, de la même manière, nous condamnons cet assassinat lâche, que ce soit de Mouzé, que ce soit de M. Patrice Emery Lumumba. De la même manière, j'écris, je profite de votre micro, pour que ceux-là qui sont détenus injustement, j'ai cité Leta, plusieurs d'entre eux sont morts, et qu'une bonne justice soit faite, le président Fatih l'a dit. Mais j'ai compris aussi que quelque part, lors de sa dernière interview sur Jeune Afrique, il dit qu'il ne sait pas aborder la question, c'est parce que c'est d'abord une affaire des sentiments ou une affaire des passions avec son prédécesseur Joseph Kabila, parce que c'était son père. Donc je pense que 19 ans après, nous devons avoir les procès. Mouzé, ceux qui l'ont tué, ce sont ceux qui l'ont accompagné au pouvoir. Nous les connaissons, et aujourd'hui, nous ne pouvons que crier justice pour que des pareils cas, des pareils assassinats ignoble, cruel, ne se répète plus.
Merci Ambroise Mamba, directeur des informations à Congo Web Télévision, émettant de Kinshasa. Il n'y a pas que Laurent Désiré Kabila, il y a aussi Patrice Emery Lumumba, deux personnalités apparemment qui avaient lutté pour les mêmes causes, et apparemment ils ont eu les mêmes destins.
Pour Patrice Emery Lumumba, personnellement, je sais que le combat était en faveur de la RDC. Mais pour Laurent Désiré Kabila, pas tellement, parce que je réalise que Laurent Désiré Kabila nous a plongé dans beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ici, on déplore aujourd'hui les agressions du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Il y a en partie à Laurent Désiré Kabila qui a participé à ce qui nous est arrivé aujourd'hui, parce que l'histoire tiendra qu'avec le James Kamarebe dont on a parlé dernièrement, avec le mariage de son fils qui a vu Vital Kamerhe participer, donner un cadeau de 30 vaches, a été nommé chef d'état-major ici au Congo quelle infiltration vous pouvez vous imaginer. Et je me rappelle avoir entendu une autre vidéo de Musée Laurent Désiré Kabila lui-même qui déplorait avoir nommé un ministre rwandais sans le savoir. Et il ne l'a su que lorsque les Rwandais devaient rentrer dans leur pays. Et ce ministre se sentait en insécurité. Il pose la question au ministre, mais vous êtes en insécurité comment? Le ministre lui révèle qu'il était rwandais. Il était lui-même surpris. C'est-à-dire que Laurent Désiré Kabila nous a amené des Rwandais qui nous ont tellement infiltrés, qui ont infiltré notre armée. Mais aujourd'hui, on les célèbre, on les commémore. Et je pense également qu'il y a aussi une certaine inadéquation entre ce qu'il avait quand même déclaré et ce qui s'est fait au bout des 18 ans de règne de Joseph Kabila, notamment parce que lorsqu'il dit par exemple que ne jamais trahir le Congo, par exemple, ça c'est une bonne déclaration, mais lorsque vous regardez comment le pays a été géré pendant 18 ans par son fils, mais 18 ans après, on remarque que c'est la trahison du Congo qui a continué. L'infiltration du Congo a été favorisée de plus en plus. Aujourd'hui, on parle de la balkanisation dont les projets seraient à 70% téléchargés. Vous sentez que quelque part, il y a eu beaucoup de problèmes.
S'il faut revenir sur Laurent Désiré Kabila, l'histoire nous apprend que lorsqu'il s'est amendé, n'est-ce pas, lorsqu'il s'est désolidarisé de ses anciens alliés, et tout de suite l'opinion tant publique que politique congolaise l'a adopté, et surtout quand il a été tué, hein, tout le monde l'a adopté, ce qui fait qu'aujourd'hui pour la plupart des Congolais, c'est vraiment un véritable héros national.
Bon, on l'a adopté, c'est peut-être par rapport au travail des médias, les médias qui font un travail quand même considérable. Il y a aussi un côté politique aussi assez important, parce que le pouvoir, c'était le kabilisme qui continuait encore. Il y a un message qui a été lancé au niveau de l'opinion. Oui, mais le problème, c'est que est-ce qu'à l'époque, l'opinion pouvait réaliser que 2 ans après, 3 ans, 5 ans après, le même Rwandais que lui a laissé entrer au pays pouvait continuer à nous causer de problèmes?
Au sujet de Patrice Emery Lumumba.
Oui, Patrice Emery Lumumba a mené un combat pour l'indépendance de notre pays. Il en a été martyr. Et je pense que cette commémoration a vaut son pesant d'or. Il faut perpétuer ce genre de combat pour notre pays, pour amener le pays au développement. Mais par contre, je voudrais dire que il nous semble que nous perdons 2 jours d'affilée dans ces commémorations. Si les législateurs pouvaient penser à fusionner ces 2 jours, par exemple, on les fusionne, on commémore les 2 héros nationaux dans une seule journée commune, et je pense que nous gagnerons un temps.
Merci Brunel Kachi, journaliste à Yalisano Télévision et rédacteur du magazine indépendant Agora à Kolwezi, province de Lualaba. Un commentaire par rapport à ces 2 événements.
Voilà, cher confrère, je vais d'abord commencer par signifier ici que le musée Laurent Désiré Kabila a trouvé ses pays alors qu'il était venu le délivrer, disons, de la dictature du Mobutu. Mais il a cédé ses combats à son fils. Nous devons aujourd'hui saluer Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ses pays divisés et la balkanisation était sur les rails. Et s'il a facilité la réunification de cet État, nous ne pouvons qu'y saluer aujourd'hui les combats menés par ces derniers. Mais je ne vois pas vraiment l'idée selon laquelle il faut toujours se pencher sur les côtés négatifs. Il faut voir également les réalisations que ces derniers a pu faciliter pour l'intérêt de notre pays. Mais au moins, s'il vous plaît, j'aimerais parler d'une petite actualité sur ma province, où on dit à l'actualité qui est en train d'effrayer la chronique dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, il y a eu des messes organisées ça et là, des messes des Rakiem et plusieurs manifestations en mémoire de ces 2 héros nationaux. Ici au Lualaba, c'est les gouverneurs des provinces et les membres de son gouvernement, ainsi que les politiques de plusieurs tendances qui ont envahi l'église méthodiste réunie jeudi dernier. Et je crois vraiment que cet événement a pu faciliter à tout le monde de se remettre dans l'assiette dans laquelle nous devons être face à la réalité ou aux réalités vivantes de notre pays. Et c'est dur aujourd'hui que s'il y a des gens qui avaient milité fortement pour que nous puissions avoir la liberté et l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Donc nous devons également apporter une touche pour que les développements ou soit l'amélioration de notre pays puisse toujours être rassurante. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de passer un mot sur la passation du bâton de commandement au sein de la police ici au Lualaba. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, je me permets de souhaiter joyeux anniversaire au Ditraba du gouverneur Richard Mouyej Manguezman, c'est Yannick Tissola qui venait de souffler sa bougie. Mais s'il vous plaît, Désormais, le général David Massangui, qui est commissaire divisionnaire provincial de la PNLC, à qui j'adresse d'ailleurs mes sincères félicitations, je voulais dénoncer quelque chose qui me pique personnellement. C'est vrai qu'il y a une forte dose de l'insécurité dans certains quartiers de la ville de Colésie, mais s'attaquer, arrêter les jeunes gens qui ont des longues chevelures, et quand même, pour moi, c'est une exagération, et pour moi, je trouve vraiment que c'est de l'entorse.
Merci.
Je plaide à la police aujourd'hui de trouver une autre politique pour injonctionner à celle-ci, ou soit abroger carrément. Ça,
merci.
C'est vraiment une chose qui doit être améliorée dans la province.
Ok, merci, le message est passé. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Après la conquête des bastions des EDF, a béni l'état-major général des FRDC a mis en place des mécanismes pour consolider ses victoires sur l'ennemi dans les zones conquises. Un centre de coordination des opérations demeure en alerte à l'aide des numéros verts par lesquels les populations peuvent signaler tout mouvement ou cachette des criminels. En plus des militaires, les effectifs des policiers sont renforcés pour bien sécuriser les populations. Par ailleurs, concernant les attaques des forces qualifiées de supplétives de l'armée, notamment les Mai Mai, l'état-major général affirme que son unique mission demeure la neutralisation et l'anéantissement de toutes ces forces négatives. Après cette conquête des principaux bastions des EDF, quelle mission l'armée régulière se donne-t-elle? Le général Léon Richard Kasonga, porte-parole des FRDC, répond au micro de Billy Ivan Lutumba.
La tête de l'ADF a été neutralisée. Il y a un seul leader qui n'est pas encore neutralisé de manière définitive. Il doit être en train de se cacher quelque part. C'est le centre de gravité que nous recherchons. Quand nous aurons neutralisé ces délinquants, là, ces terroristes, nous serons heureux de dire, pour nous maintenant, l'histoire ADF est terminée, ça reste un travail de la police afin qu'elle fasse le travail de maintien de l'ordre public. C'est vrai que nous avons conquis Madina, mais il y a New Madina que nous sommes en train d'atteindre. Il y a également des endroits, spécialement l'endroit où se trouve ce monsieur-là qui est resté, quand nous l'aurons neutralisé, nous pourrons alors venir devant vous dire, oui, à la tête d'aujourd'hui, c'est terminé. Cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons plus à reculer. Nous allons écraser, nous allons neutraliser de manière définitive toute unité, toute obligation, toute attitude qui serait apparentée à l'ADEF et ses forces supplétives sera anéantie. Nulle place ne sera passée où il subsistera un seul groupe armé contre les lois de la République ou contre le prescrit.
Serge Kabongo, comment vous réagissez à ces annonces des FRDC à travers son porte-parole, le général Léon-Richard Kasonga, faisant état de la conquête des bastions des EDF et de l'anéantissement de certains de leurs leaders?
Je réalise qu'avec un peu de la volonté politique, les choses peuvent marcher, et c'est le cas de le dire. Après tout ce qu'on a vécu, quand les forces armées de la RDC avaient défait les M23, je pense que c'est la deuxième offensive foudroyante qui paye la mise en place de ce qu'on a appelé de l'état-major avancé au niveau de Béni, commence à produire les fruits. Et je ne peux que saluer cette volonté politique du président de la République, cette détermination qu'il a à pouvoir venir à bout de ces insuffis, de ces forces négatives. Mais aussi, je constate que ce sont les mêmes éléments de l'armée, ce sont les mêmes munitions, ce sont les mêmes hommes de troupes qui sont sur les champs de bataille, qui se battent nuit et jour.
Alors, et donc, le nouveau facteur, c'est la volonté politique.
Justement, c'est ce que j'ai dit, c'est la volonté politique. Parce que c'est les mêmes chefs MJ, le général Mbala qui est là, c'est les mêmes, Léon Kasonga qui est là, c'est les mêmes éléments des troupes. Ils ne sont pas venus de l'étranger, ce sont les mêmes éléments de l'RDC. Je salue cette récupération de Madina. Mais j'aimerais dire ceci.
Ça veut dire que cette volonté politique a fait défaut à l'époque.
Peut-être. Ou soit il n'y avait peut-être pas une détermination voulue. Mais aussi, je n'aimerais pas être pessimiste parce que j'aimerais rappeler ici que Madina, c'est pour la deuxième fois qu'elle soit récupérée. J'ai même suivi la vidéo d'un élément des forces armées, de l'infanterie, dire c'est pour la deuxième fois que nous puissions récupérer Madina. Comme pour dire, à l'époque de Joseph Kabila, nous devons être honnêtes, nous sommes aussi journalistes, il y a eu de telles offensives, mais sauf qu'après, on n'a pas consolidé comme l'armée dit aujourd'hui. Il faut consolider les positions, on n'a pas consolidé les positions et l'ADF avait repris ses positions. J'espère, et c'est le vœu de tous les Congolais que nous sommes, et que comme Madina a été récupérée, comme Maya Ngossi a été récupérée, et que ces zones-là soient aujourd'hui occupée par des forces armées, mais aussi par la police. Il faudrait maintenant que l'autorité de l'État soit vraiment rétablie dans ces différentes zones pour que ces gens ne reviennent plus demain. Je disais dans une autre émission, dans un autre studio, on nous a toujours rabattu les oreilles ici. Je ne suis pas expert dans des questions militaires, mais je suis journaliste, je m'intéresse à la question. On nous a dit, écoutez, on ne sait pas mener la guerre à ces EDF parce que ils ne nous font pas une guerre classique, ils ne font pas une rébellion, ils nous font une guerre asymétrique. Mais à une guerre asymétrique, on répond par une offensive asymétrique. Il faut adapter notre offensive par rapport au modus operandi de l'adversaire.
Et vous pensez qu'au vu de cette victoire, n'est-ce pas, de toutes ces victoires de FARDC, vous pensez que c'est cette guerre asymétrique que nous avons commencé?
Alors, j'ai comme l'impression que ces gens-là nous ont écoutés. Parce qu'Ambroise Mamba, il y a vous, il y a Madimba, il y a tout le monde qui l'écoutait. On a crié, on a pris des micros pour dire, mais il ne suffit pas de tirer une conférence de presse parce que vous êtes ministre, porte-parole, l'homme au verbe est facile, pour venir dire c'est une guerre asymétrique. Donc, on adapte la riposte par rapport à ce que l'ennemi apporte. Donc, je réalise aujourd'hui que l'État nous a écoutés. Fatih, qu'on appelle Fatih Béton, a voulu un peu bétonner cette question de l'Est. Et je pense, comme le général Kassonga Léon l'a dit, il faudrait maintenant que la police puisse faire son travail.
Merci.
Mais aussi, j'aimerais, pour terminer, Guimati, interpeller la notabilité du Grand Nord, que ce soit le Nord, Kivu, Sud, Kivu, les Maniema. Nous devons nous-mêmes dénoncer nos ennemis. Nous devons dire aux jeunes qui nous suivent qu'il n'y a que la sécurité, que par la sécurité qu'il y aura les développements. Si nous-mêmes, nous commençons à héberger ces EDF, si nous-mêmes, comme le général Kassonga l'a dénoncé dernièrement, il y a parmi tous ceux-là qui alimentent les tensions, les originaires, comme les non-originaires qui sont à Kin, qui sont là-bas, nous devons tous, parce que l'armée seule ne peut pas gagner la guerre.
Merci.
S'il n'y a pas l'accompagnement de la population et
Merci.
De la notabilité de la place.
Merci Ambroise Mamba. Un des bastions importants des EDF est tombé. Serge Kabongo l'a relevé, ici c'est Madina. Il reste New Madina, comme l'a affirmé le général Léon Richard Kassonga. Mais au-delà de la symbolique que représente la reconquête de ces différents bastions, que vaut la chute de ces lieux symboliques pour un mouvement qui n'a pas besoin d'un quartier général pour exister, qui n'a pas besoin d'un quartier général, n'est-ce pas, pour continuer à nuire, qui n'a pas besoin d'un quartier général pour se régénérer?
Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Il faut d'abord souligner que ces annonces sont faites au moment où on parle balkanisation, où les esprits des Congolais sont surchauffés par rapport à la balkanisation. On a vu Martin Fayoulou annoncer la balkanisation, on a vu l'armée elle-même en parler, on a entendu le cardinal en parler. Et puis, paf, on nous annonce la reconquête de Madina. Et ça signifie que cette reconquête vient apporter un ouf de soulagement auprès des Congolais. Et les Congolais qui pensaient que dans quelques peu de temps, ils peuvent perdre une partie de leur territoire. Mais ils réalisent que non, les FARDC ont fait un travail important. Et à ce moment-là, il y a eu un ouf de soulagement qui a été poussé par les Congolais. Et c'est ce que nous saluons. Ce sont des informations dont nous avons besoin. Et effectivement, il faut maintenant, comme l'a dit Serge Kabongo, il faut maintenant que ça dure dans le temps. Ça doit être consolidé, ça doit durer dans le temps. Vous savez que par le passé, en 2012, notamment, les Congolais avaient été déçus de voir que lorsque les M23 avançaient, à un moment, les FARDC avaient réussi à repousser les M23, mais après, il y a eu ce qu'on a appelé dans les temps repli stratégique. Après ce repli stratégique, Goma est tombé vers la suite. Et c'est là qu'on dit que est-ce qu'il n'y avait pas d'autres agendas? Ce sont des questions qui sont restées comme ça sans réponse. Mais lorsqu'on observe la manière dont ça s'est passé la fois passée, on a des craintes. On a des craintes à émettre. Madina est tombée pour la première fois et encore est tombée dans les mains des rebelles. Et aujourd'hui, le territoire est reconquis. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une réorganisation de l'armée. L'armée doit être réorganisée. On doit arriver à réformer cette armée. On doit arriver à avoir un centre de formation des paracommandos au pays. À l'époque, il y avait les Kotakoli, par exemple. On doit arriver à recourir aussi aux drones, parce qu'il faut aussi rappeler ici que lorsque le porte-parole des FARDC annonce ces nouvelles, il déplore également la perte en vie. On a perdu, on a parlé des 30.
30 hommes qu'on a perdus. Et ce qui signifie que si on recourait par exemple aux drones, à l'utilisation des drones, on peut réduire le nombre de pertes dans les effectifs des FRDC.
Mais Guy Mathieu, vous avez posé une question très importante à notre confrère. Mm-hmm. Vous avez dit, est-ce que pour un mouvement aussi rebelle, est-ce qu'on a besoin...
Qui a toutes les caractéristiques de mouvements terroristes.
C'est là où je pense que vous avez posé d'ailleurs la très belle question. Et je pense que la personne la mieux placée à répondre à cette question, c'est le général Kasonga. Je suis d'accord pour que c'est frotter les mains, ils font du bon boulot sur le terrain, mais pour un mouvement aussi subversif des terroristes, ils n'ont pas besoin d'avoir un QG, ils peuvent à tout moment se déplacer.
Ils se disséminent facilement, c'est parti facilement dans la nature.
Pourquoi je dis, il faut maintenant adapter ou réadapter notre système sécuritaire par rapport à leur mode d'opération. Je pense que vous avez posé vraiment une question très 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 importante à laquelle le général Kasson a
pris. Tu m'as pris les minutes, mais heureusement, merci beaucoup d'avoir donné cet élément de réponse. Oui, effectivement, bon, il a annoncé la prise de Madina News. C'est Madina News.
Non, Madina jusque-là. Et ils sont en train d'aller vers New Madina.
New Madina. Ouais. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut adapter maintenant la riposte par rapport au modus operandi des rebelles. Alors, il faut qu'on les accompagne par toute la population. Donc, les FRDC ont besoin de cette accompagnement de la population. Mais il faut effectivement qu'on puisse tirer les oreilles de ceux. Parce que derrière moi, lorsqu'on a présenté... des ADF Béni, il y a eu des déclarations qui ont été faites, on avait cité les noms de certains officiers qui sont infiltrés, ainsi de suite, mais de ce côté-là c'est une question qu'il faut aussi qu'on gère avec beaucoup de responsabilité, ainsi que si on négligeait cette question, je pense que on peut encore déplorer d'autres situations dans l'avenir.
Merci Brunel Kachu. Depuis quelques semaines, les ADF n'ont pas perpétré de nouvelles attaques dans les différentes agglomérations, ce qui est une chose positive. Et comment vous expliquez cette attitude des ADF? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a cette pression, cette forte pression des FRDC sur ces mouvements, ou alors c'est juste un repli stratégique, n'est-ce pas, pour pouvoir se régénérer?
Voilà, je crois vraiment que c'est un recul stratégique, tel que vous venez de le dire, mais au moins j'ai suivi avec attention les porte-parole de l'armée régulière de notre pays, qui parlait d'un grand pas et une victoire pour la population. Et donc, de cette manière, c'est vrai, ça peut être toutefois un recul aussi stratégique pour voir de quelle manière encore revenir avec une forte pression supérieure à la normale, mais je crois vraiment que si la population tout entière s'est mettée ou prenait la décision de soutenir les forces armées, ce serait une très bonne décision. Parce que tout le monde aujourd'hui, tous les Congolais aujourd'hui, a besoin de la paix à l'est de notre pays. Et si nous continuons à travailler avec ces FRDC, ces vaillants soldats qui sont en train de redonner espoir aujourd'hui à ces compatriotes en détresse qui étaient presque inconsolables, nous pensons vraiment que ce serait un soulagement. Vous pouvez vous imaginer, il a fallu 10 jours de combats intenses pour déloger les ADF de Madina, que ces derniers occupaient depuis plus de 20 ans. C'est vraiment une action à saluer. Nous devons aujourd'hui féliciter ces vaillants soldats. Et avec ça, moi, je crois vraiment que la population doit continuer à collaborer dignement avec la police, l'armée et tous les services également de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects. Et donc, de cette manière, nous pensons vraiment que si la population tout entière se mettait à collaborer avec ces agents de l'ordre, il va y avoir quand même une suite aussi favorable. Et nous devons aujourd'hui quand même féliciter la volonté politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que vous êtes en savoir que ces guerres ont causé des centaines de morts de nos compatriotes, que ce soit les civils, que ce soit les militaires, des centaines. Et donc, et de cette manière, nous devons aussi, nous qui sommes des médias, nous devons sensibiliser nos compatriotes congolais à ne pas écouter les voix des ennemis de la République démocratique du Congo, les politiques que je m'évite de qualifier de ménopausés qui veulent à tout prix dérouter la tension de notre population.
Merci Serge Kabongo. Au vu de ces exploits des FRDC contre les ADF, est-ce qu'on peut déjà crier à la victoire finale contre ces rebelles? Ou il faut mettre en place des mécanismes qui feraient que, comme on l'a suggéré Ambroise Mamba, que c'est ces exploits-là puissent durer dans,
s'inscrire dans,
dans les temps.
Est-ce qu'on a, détruit les bases des EDF? Est-ce qu'on a sensiblement réduit leur capacité de nuisance? Parce que là, ils sont en débandade. Il faut faire un travail de fond. Les experts militaires vous diront qu'on ne gagne jamais une guerre si vous n'avez pas de bons renseignements. Parce qu'il faudrait maintenant que les renseignements travaillent. Si nous avons un bon renseignement, là, nous allons faire un bon travail. Si vous n'avez pas de renseignements, ça sera difficile. Ils ont connu peut-être des déboires. Ils se dispersent. Après 2-3 mois, ils vont peut-être se retrouver. Et pour non, c'est vrai qu'aujourd'hui nous saluons, mais nous devons rester droit dans nos bottes, l'armée, la police et les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir donner la bonne information au moment opportun et à qui de droit, pour que l'on ne revienne plus dans ce que Ambroise Mamba a dit ici. Aujourd'hui, vous gagnez tel espace, demain vous faites des replis, vous dites c'est stratégique. Non, ce n'est pas encore fini. Et la guerre, on la finit pas en une seule journée. Et même quand vous allez côté des Tessalites vers les Nord-Mali, vous allez avec Barkhane et je ne sais pas moi, au niveau du Burkina Faso, même l'armée équipée comme l'armée française n'a toujours pas dit qu'elle a mis en déroute les rebelles au nord du Mali et que c'était fini. Non, nous gardons notre position, l'armée doit rester, comme on dit, aux aguets, et pour que cela s'inscrive dans la direction comme vous l'avez.
C'est une proposition de Serge Kabongo, il faut un bon renseignement et cela entre, n'est-ce pas, dans le processus des réformes de l'armée, vous l'avez proposé.
Je voudrais ajouter un autre élément. Il faudrait également arriver à identifier la source d'approvisionnement des ADF. Et si on identifie cette source d'approvisionnement, on coupe cette source, je pense qu'on peut arriver à les avoir facilement et puis les neutraliser. Parce que le tout revient dans la question que vous avez posée par rapport à savoir si ce mouvement a besoin d'un quartier général pour opérer. Je pense que cette question est très importante.
Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas?
Beaucoup de choses à faire.
Merci. Cela nous permet de passer à notre deuxième thème de ce soir. Le vice-premier ministre en charge de la justice a réuni cette semaine à Kinshasa les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales des 4 provinces en crise. Parmi ces provinces figure celle de l'Ituri. Il était question pour Célestin Tounda Kassendé de rappeler aux uns et aux autres les prérogatives qui leur sont incombées. C'est ce qu'a expliqué Jean Bamanista, gouverneur de l'Ituri. Il a été joint par Paul Matendo.
Nous avons été reçus en introduction et dans une séance vraiment très conviviale où il nous a été rappelé pourquoi nous étions là et quelles sont les prérogatives qui nous incombent. Vous savez, c'est celui de travailler pour la République, pour le bien des citoyens et de trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent se poser dans nos provinces. Nous remercions vraiment le gouvernement pour cette sollicitude de ces questions qui sont très importantes sur la stabilité de nos institutions provinciales pour pouvoir assurer le développement. Donc, nous allons poursuivre les réunions demain. Elles seront à ce moment-là par province et par gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Nous pensons que cette période de difficulté, de crise doit passer et que nous devons en tout cas travailler dans la parfaite collaboration, encore une fois, pour le bien de nos populations.
Brunel Kachi, journaliste à Yalisano Télévision et rédacteur du magazine indépendant Agora Kolosi, province de Lualaba. Et comment vous jugez cette démarche du gouvernement central qui consiste à inviter et à réunir à Kinshasa les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales des provinces qui connaissent des crises interinstitutionnelles?
Voilà, chers confrères. C'est vrai, ces gouverneurs sont convoqués suite à la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'examiner et proposer des voies de sortie à la crise institutionnelle. Mais au moins, je vais commencer par quelque chose. Pourtant, la compréhension de la crise qui prévaut dans la province du Congo central ne devait pas être connexe avec les trois autres provinces dont leurs gouverneurs ont été aussi convoqués. Aujourd'hui, si Joseph Mukumadi, Jean Bamanissa et Marcel Légué ont plus de chances de retourner à la tête de leur province respective, cela paraît et hermétique pour Atumatubwana Kuluki et Justin Louemba de diriger la province du Congo central, car ces gens sont impliqués dans une affaire des scandales sexuels. Pourquoi je dis ceci? Parce que la réhabilitation de l'équipe Atumatubwana Kuluki ira à l'encontre du décret loi 017-2002 du 3 octobre 2002 qui bien sûr portant code des conduites de l'agent public de l'État à s'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de sa fonction, tels que les vagabondages sexuels. C'est-à-dire que l'analyse des contentieux de ces quatre gouverneurs, les vice-premiers ministres de la justice, ne doit donc en principe déroger aux lois qui intéressent à l'ordre public et des bonnes mœurs. Ces lois sont impératives et ne peuvent s'écarter pour la volonté des partis. Et donc, à part ces dossiers des scandales sexuels, il y a aussi les dossiers des massacres des adeptes des Bundu d'Ia Congo, par exemple, les fausses communes, les pillages des ressources en Bamba, Kilenda plutôt, et partout au Congo central. Et donc, je crois vraiment que pour la dignité des Simon Kimbangu, des Kimpan Vita et de tous les Congo, ces duos n'étaient aujourd'hui que c'est contentés d'assumer notre responsabilité de diriger cette province, laquelle qui est victime aujourd'hui d'une mauvaise réputation pour les causes qui les concernent. Et donc, à part ça également, moi je suis en train de me dire tout simplement que les premiers, les vice-premiers ministres et le ministre de la Justice doivent aujourd'hui également, ou soit dans cette commission, ils doivent tenir compte des rôles des assemblées provinciales. Les assemblées provinciales sont là pour contrôler les exécutifs provinciaux. Et donc, de cette manière, c'est les assemblées provinciales qui sanctionnent lorsque elles constatent qu'il y a certaines défaillances dans la gestion des gouverneurs, à titre d'exemple. Et donc, de cette manière, nous pensons vraiment que s'il y a maintenant crise des collaborations entre les assemblées provinciales et les chefs de l'exécutif provinciaux, bon, que les gouvernements centrales puissent s'y intéresser. Il faut.
Merci, Brunel Kachi.
Puisse sortir vraiment dans les droits.
On a compris, Serge Kabongo, journaliste à CTV, télévision émettant de Kinshasa. Et au-delà, n'est-ce pas, de la particularité de chaque dossier, c'est un aspect relevé ici par Brunel Kachi. Ces dossiers qui étaient initialement gérés par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, qui est membre de CACH, a été confié par les premiers ministres aux vice-premiers ministres et ministres de la Justice. FCC, et on se rappelle, n'est-ce pas, la divergence entre ces deux alliés et par rapport à ces dossiers.
Ça met cela au grand jour, c'est sur la table et on assiste impuissamment. C'est pas les premiers couacs. Vous avez vu des gouverneurs ici, quand les vice-premiers à l'intérieur a écrit au gouverneur, soit cette histoire de commissaires, des conseillers, des secrétaires généraux dans des provinces, comment les gouverneurs avec Jean-Tinin Gobila ont repris pour insulter les vice-premiers ministres. C'était pas les premiers cas, il y en a assez. Je suis peut-être pas d'accord avec Brunel, en partie. Pourquoi je dis ça? J'aimerais d'abord.
Oui, parce qu'il faut, distinguer les dossiers.
Deux aspects. On n'a peut-être pas assez de temps. Je reviens à l'esprit originel du législateur de 2004. Si le législateur avait pensé qu'il fallait décentraliser, morceler ou faire les découpages pour obtenir le développement ou soit rapprocher des dirigeants des dirigés, je pense aujourd'hui que plus de 6, 8, 10 ans après, l'expérience nous montre que c'est vraiment un échec et nous devons mettre un point sur ça et arrêter. Parce que quand vous dites c'est pour le développement, est-ce que la commune de Barumbu qui est proche de l'hôtel de ville de Kinshasa ici, la commune de Barumbu est développée? Donc il faut d'abord réfléchir sur cette question. Deuxième chose,
et la commune de Gombe, voilà,
est-ce que la commune de Gombe est
développée?
Donc, c'est vraiment un argument farfelu que de dire la décentralisation amène le développement. C'est faux. De deux, comment vous expliquez que vous mettez en place, soi-disant, une commission interministérielle ad hoc pour régler ce conflit, pendant que cette commission est même anticonstitutionnelle et cette commission viole les dispositions de l'ordonnance numéro 025 de 2018 portant modalités de collaboration entre les membres du gouvernement, entre le gouvernement et les premiers ministres. Et que disent les articles, par exemple, les articles, je crois si ma mémoire est bonne, les articles 53 et 55. Ces articles disent ceci. Je vous donne l'esprit, je ne lis pas in extenso, l'esprit. S'il y a un conflit, et que ce conflit est dans un domaine d'un ministre, si on met en place la commission, c'est ce ministre-là qui a la compétence de pouvoir diriger cette commission. Et ça, c'est le premier alinéa. L'autre alinéa vous dit ceci. Si la question ne concerne peut-être pas un secteur où le ministre lui-même est concerné, c'est le ministre précédent qui dirige la commission. Pour les cas d'espèce, les conflits des provinces, c'est les conflits entre les exécutifs et les législatifs, les assemblées et le gouvernement provincial. Comment vous expliquez que c'est une question qui concerne, vous l'avez très bien dit, le ministère de l'Intérieur? Et on veut déposséder le vice-premier ministre. De cette question, on donne à son homologue, qui est le vice-premier ministre de la Justice. Qu'à cela ne tienne,
le vice-premier ministre de la justice, il est moins séant que celui de l'intérieur. Après le premier ministre, directement, ça vient le vice-premier ministre de l'intérieur. Comment vous pouvez vous imaginer que vous êtes dans une commission interministérielle ad hoc, celui qui est préséant est là, mais celui qui est moins séant qui dirige la réunion.
Et moi, vous expliquez cela par quoi ?
Non. Ça, c'est, mais vous l'avez dit. Je résume tout cela en disant que c'est une commission interministérielle ad hoc du FCC et PPRD. Bon. Nous devons dénoncer ce genre de pratiques. Mm-hmm. C'est parce qu'aujourd'hui, le premier ministre qui nous suit, c'est un vieux, il a plus de 70 ans. Il ne peut pas nous donner des exemples comme ça. Comment vous expliquer que dans toutes les assemblées provinciales, il n'y a que les PPRD et les FCC qui sont majoritaires. Donc, si aujourd'hui, il y a des troubles, c'est entre autres les PPRD et les FCC qui veulent Merci. Entretenir ces troubles-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a cette question de la péréquation qui ne vient pas. Les députés, jusque-là, ça fait 5-6 mois, ils n'ont pas encore touché des émoluments. Alors, si vous voyez, la rétention ne vient pas, mais aussi,
la rétention vient,
c'est que les gouvernements provinciaux en font, en tout cas, c'est difficile de les prouver. Mais regardez ce qui se passe également dans nos assemblées et dans nos équipes provinciaux. Si vous avez un député, si vous avez un gouverneur qui exécute les orientations des présidents, Félix Tshisekedi, les PPRD commencent à dire, les FCC commencent à dire, ce gouverneur-là, s'il fait bien le travail de Fatih, ce sera le bilan de Fatih, il devient moins sécurisant pour les FCC. Regardez parmi les quatre gouverneurs avec les quatre provinces à problème. Au niveau du Congo central, Atuma Tumwana est élu indépendant. Il a battu le candidat du FCC.
Vous allez à Ituri.
Attendez. Vous allez à Ituri. Jean Bamanissa a battu le candidat du FCC. Vous allez au Sankourou. Le candidat du FCC a été Mende a été battu. Vous allez dans l'autre province. Donc, il faut faire attention avec ce que le FCC fait. Merci. Parce que ça peut créer des problèmes dans nos assemblées. Mais aussi, ces assemblées, il faut comprendre que tous ces députés qui sont là ne sont pas des députés originaux. La plupart qui ont été élus députés sont devenus soit ministres, Merci. Ils sont devenus soit gouverneurs. Et ceux qui sont venus là, ils pensent qu'ils doivent se faire une santé financière. Et si on demande l'argent au gouvernement, ça ne vient pas. C'est
merci,
Serge
Kamongo, merci.
Et ça, ce n'est pas bien.
Ambroise Mamba, directeur des informations à Congo Web, télévision émettant de Kinshasa. À quoi pourrait aboutir, n'est-ce pas, cette démarche du gouvernement central quand on sait que tous les gouverneurs, n'est-ce pas, concernés par ces dossiers ont été tous, n'est-ce pas, destitués par leurs assemblées provinciales respectives?
Non, c'est que moi, je note d'abord la première chose que je note, c'est que le FCC est en train de se racheter un tout petit peu, parce que le FCC a instrumentalisé les députés provinciaux de toutes ces provinces pour déchoir ces gouverneurs. Le FCC...
Et quels sont les éléments sur lesquels vous basez pour
dire cela? Je suis en train d'analyser la question. Mm-hmm. Je suis journaliste, parce que le fait pour le Premier ministre d'avoir demandé ou bien la mise en place de cette commission ad hoc pour traiter de cette question, mm-hmm. c'est parce que justement, le chef de l'État n'a pas pris acte de la déchéance de tous ses gouverneurs. Le chef de l'État n'a pas pris acte. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont été dénoncées et il y a eu même une fuite d'informations qui nous est parvenue de Kingakati. Il y a eu une députée nationale qui a demandé à Joseph Kabila de chercher à convaincre Félix Tshisekedi pour et qu'il accepte de prendre acte de la déchéance de Atuma Tumwana. Mais Kabila a répondu à cette députée nationale que non, mais il y a eu beaucoup d'irrégularités dans les processus de déchéance des gouverneurs. Donc c'est juste pour dire que le FCC se rachète d'abord pour noter que ces gouverneurs ne sont pas déchus. Et puis la deuxième chose, ici je voudrais déplorer une chose. Le premier ministre est une marionnette.
C'est grave ce que vous dites là.
Non, mais c'est une marionnette.
Mais c'est l'image qu'il nous donne.
C'est l'image qu'il nous donne. Vous pouvez vous imaginer que le Premier ministre, parce qu'on les tire les oreilles par le FCC, il prend les prérogatives du vice-premier ministre de l'Intérieur, il confie ça à celui qui est moins séant. C'est tellement déplorable.
Qui vous dit que l'impulsion est venue du FCC?
Mais Guy Machu,
est-ce qu'il n'a pas agi de son propre chef?
Je connais les joueurs et son jeu. Le FCC a géré le pays pendant 18 ans.
Merci.
Nous connaissons comment.
Et la solution, c'est quoi? Parce que nous devons sortir de cette crise. Ambroise Mamba, il faut quoi pour sortir de cette crise?
J'aurais voulu qu'on fasse simple. J'aurais voulu qu'on arrête avec cette histoire des coalitions FCC cash. Qu'on rentre dans une autre chose, par exemple, la cohabitation.
Merci.
Et comme ça, dans la cohabitation, on verra ce que ça peut donner. Puisque dans la coalition, ça ne marche pas.
Merci. Brunel Kachi, c'est quoi la solution en deux phrases?
la solution actuellement, moi je crois vraiment qu'il faut laisser les assemblées provinciales aussi indépendantes, parce que au moins ce sont ces dernières qui doivent contrôler l'exécutif, et si l'on donne aujourd'hui cette responsabilité au gouvernement central, je suis en train de me dire au moins que les assemblées provinciales ont un rôle protocolaire.
Merci, laisser les assemblées provinciales indépendantes. Serge Kabongo, c'est quoi la solution?
Que les PPRD laissent la gestion des provinces, si les gouverneurs doivent travailler pour que l'action du chef de l'État fait ce qu'il réussisse, que les PPRD ne voient pas ça d'un mauvais œil. C'est ça le problème. Il faut laisser le gouverneur travailler.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était à la technique et Kelly Nkout qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. À la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.